Liberté, égalité, fraternité, vous connaissez, c'est la devise de la France et l'égalité est au cœur de la République. Mais qu'en est-il concernant les filles et les garçons? Ont-ils la même place dans la société? Petit reportage à l'occasion de l'Expo Quiz installé au CDI du Collège Roca, intitulé Égalité filles-garçons, parlons-en.
C'est le panneau égalité, filles, garçons, parlons-en.
Il n'y a pas plus de filles dans les garçons. Celle-là.
Moi je dis c'est vrai parce que regardez là-haut.
C'est quoi la question?
Dans l'enseignement supérieur, y a-t-il plus de filles
à l'université en langue et en lettres?
Bah pour moi c'est faux.
Oui, ça c'est faux. Mais dans la classe de préparatoire de scientifique, c'est vrai.
Bah non, parce qu'il y a les deux.
Pour les filles scientifiques et techniques pour les garçons.
Mais bon, on peut choisir l'orientation des genres. Genre, tu peux faire du maquillage alors que t'es un garçon.
Oui. Et en France, la réponse, c'est l'inverse.
Non, c'est faux.
Ça, c'est vrai.
Non, c'est faux.
Un parcours littéraire ou social pour les filles scientifiques et technique pour les garçons.
Stéréotype.
Et ça veut dire quoi? Tu sais ce que ça veut dire?
Choix d'orientation genrée. C'est que genre t'as le droit de faire ce que tu veux. Donc dans les classes de préparatoire, il peut y avoir beaucoup plus de filles ou beaucoup plus de garçons.
Alors c'est faux, mais tout est faux alors.
Bah on sait pas.
Tout est faux.
Bah oui, tout est faux.
Dans la formation d'ingénieur, pour moi, ça par contre, ça c'est vrai. Ça c'est vrai pour moi.
Il y a plus de filles que de garçons dans les formations d'ingénieur.
Ouais, t'es en train de dire que les garçons ils font plus d'ingénieurs.
Non, mais pourquoi je dirais qu'il y a plus de garçons que de filles.
Je vais bégayer. Un garçon qui veut devenir sage-femme et une fille qui veut devenir ingénieure dans le bâtiment, c'est courageux. Ils ne sont pas souciés des clichés. Impossible, la fille n'a pas les compétences physiques requises et les garçons n'ont pas la sensibilité adaptée au poste.
Bah, c'est courageux. C'est pas impossible, ils peuvent
c'est
le faire.
Pas impossible, c'est...
Rien n'est impossible.
Du coup, mon mec, c'est quoi?
C'est courageux. Et voilà, parce que c'est pas impossible de
bah
faire
oui.
Sage-femme. On change?
Là, on est sur le panneau des égalités filles-garçons.
Ouais. La question que vous posez, c'était quoi déjà?
À la naissance, filles et garçons disposent de 23 paires chromosomes. Combien de paires et chromosomes sont identiques? Moi, j'ai mis 13.
J'ai mis au hasard parce que je sais pas.
Okay.
Moi, j'ai mis au hasard parce que moi, je sais pas aussi.
Ok. Et la deuxième?
Quelles sont les avancées qui ont eu lieu avant l'année 1980? Moi, j'ai mis la loi Veil qui autorise l'interruption volontaire des grossesses.
Moi, je pense que c'est pas vrai.
Mais quel est le pourcentage des femmes salariées non cadres qui estiment avoir rencontré un frein professionnel en raison de leur sexe? Pas augmenté, promu, désigné, pour une tâche valorisante, embauchée ou formée? J'ai pas compris.
Alors, salariés non cadres, ce sont des personnes qui ne sont pas cadres et qu'on va leur dire quel travail faire. Et elles vont...
Hein? Des ordres.
Oui, des ordres. Alors que les cadres vont plutôt organiser des équipes ou faire des projets, avoir des tâches plus complexes.
Ouais.
Et du coup, c'est les femmes qui ont rencontré un frein professionnel à raison de leur sein, qui ont été empêchées professionnellement d'être augmentées. Primées, ça veut dire d'avoir des primes, augmentation de salaire. Promues, ça veut dire changer de grade, pouvoir devenir cadre. Ça, vous voyez, c'est, après, ça, c'est les sources, c'est novembre 2016.
Moi, je dirais
31%.
5%, c'était il y a longtemps, je pense.
Donc moi, je pense que c'est 31%.
31%.
Bah oui, c'est 31% pour moi. Parce qu'en fait, bah pour moi, c'est 30%. C'est 31%. Bah parce que... je sais pas.
Enfin, ça veut dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, les filles. Enfin, de pas être commandées. Enfin, c'est pas embêtant, mais...
Elles sont indépendantes maintenant. Après, il y a certaines femmes qui sont indépendantes.
Alors, c'est pas une question d'indépendance dans le travail, ça. C'est une question que parce qu'on est une femme, on n'est pas augmentée.
Ah bah alors ça c'est
pour on n'est pas désigné pour une tâche valorisante, on n'est pas embauché ou pas formé.
Et parce que pour eux par exemple, bah, on n'est pas fait par exemple pour faire ce travail-là ou celui-ci. Et du coup, bah, ils vont plus cadrer des hommes que des femmes. Du coup, c'est pour ça que c'est.
Alors là, on n'est pas. Je crois que vous venez d'aller sur le panneau où on parle des clichés et des stéréotypes.
Ouais.
Là, on n'est pas sur les clichés et les stéréotypes, on est sur quelque chose qu'on appelle l'inégalité professionnelle.
Ah, mais je sais pas.
Ça veut dire que. Vous l'avez lu cette partie-là?
Oui. Non.
En dépit, ça veut dire malgré leur niveau d'études plus élevé, les femmes occupent des postes moins qualifiés que les hommes. À même étude, il va y avoir un directeur et une directrice adjointe. Mais il n'y aura pas une directrice et un directeur adjoint. D'accord? Moins qualifiés que les hommes et dans des domaines
qui... Ah, c'est comme ça dans plusieurs métiers, du coup.
Oui, mais ça, ce n'est pas un stéréotype. C'est d'après des sources chiffrées, d'après
bah,
des
du coup,
études.
Pour moi, c'est 31% parce que...
Mais 5%, c'est trop peu.
Alors toi, 5%, ça te semble trop peu. Et 51, ça te semble... Non, mais en fait, c'est juste une inégalité entre la manière dont sont traitées les femmes au travail et la manière dont sont traités les hommes.
Bah, pour moi, c'est 31%.
C'est pas, elles ne sont pas traitées de la même manière. Il y a une inégalité. C'est comme si on disait, ben, au collège, les garçons, ils vont chacun avoir un ou deux points de plus. Parce que c'est des garçons.
Bah, c'est pas juste.
Eh ben non, voilà. Donc là, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais la question, c'est quel est le nombre de femmes qui sont empêchées professionnellement parce qu'elles sont femmes?
Bah, en fait, 5%, c'est pas assez. Et 51, c'est beaucoup trop. Donc moi, c'est 31. Mais voilà, c'est l'entre-deux. Voilà.
Alors, on verra dans la correction que la bonne réponse, c'est 51%.
Tu vois, je te l'ai dit.
À vos postes. Les stéréotypes sexués sont encore largement véhiculés par les médias. Les contenus diffusés, films, séries, clips, publicités, contribuent à la transmission des clichés masculins ou féminins. Une instance est chargée, entre autres, de contrôler la représentation des femmes dans les médias audiovisuels. Agir contre les inégalités de représentation et veiller au respect de la dignité des personnes, c'est l'ARCOM, la DICRA, le Défenseur des droits. C'est la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, à la haine anti-LGBT. Elle lutte contre le racisme, l'antisémitisme et depuis 2016, la haine anti-LGBT.
Par rapport à la question, quelle est la réponse du coup de l'ESCRA?
La DILCRA.
La DILCRA, qu'est-ce qui te permet dans la question de dire que c'est la DILCRA? Relisez bien la question. Il y a un indice.
L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM. Elle est là pour protéger la liberté de communication et le respect des lois dans le secteur audiovisuel.
Et du coup, est-ce que c'est ça?
Ouais.
Oui.
Ça parle des films et des séries.
Ouais.
Okay. Donc, quel est le mot qui vous permet de savoir que c'est ça?
Audiovisuel.
Audiovisuel, ok. Donc là, on vous parle d'une instance qui permet une bonne représentativité des femmes et des hommes, et puis de veiller à la dignité des personnes, au respect qu'il n'y ait pas trop de clichés, comme il y a là, ou de ces stéréotypes. Et on dit dans les médias audiovisuels, donc c'est l'ARCOM. La DILCRA, elle va s'occuper, comme tu l'as dit, de tout ce qui est lutte contre l'antisémitisme, LGBT et N.
Mettre en commun les réponses que vous avez trouvées. Pour certaines réponses, vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave. Le but est de voir, à partir de vos connaissances, de ce que vous pouvez déjà voir au quotidien autour de vous, eh bien, qu'est-ce que vous avez pensé de ces réponses. Donc, si on prend par exemple le panneau numéro 1, donc sur ce panneau, ici, parmi les 4 pays qui étaient proposés, donc on avait France, Turquie, Émirats Arabes Unis, Australie, lequel a donné le droit de vote aux femmes en premier, d'après vous?
L'Australie.
C'est-à-dire que c'était l'Australie en premier, donc l'Australie aurait donné le droit de vote en quelle année alors?
1902.
Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous avez proposé?
La Turquie en
2006.
Alors, je disais qu'on essayait de partir dans l'ordre, et là, ta réponse, elle n'est pas dans l'ordre chronologique. Alors, tu m'as dit la Turquie en deuxième. Ça, je suis d'accord. Alors, il y a une autre proposition.
Turquie, 1934.
D'accord.
Émirats Arabes Unis, 1944.
Ah.
Bah, c'est la France en 1944 et Émirats Arabes Unis en 2006.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette chronologie? On voit qu'on commence donc en Australie en 1902, aux Émirats Arabes Unis seulement en 2006. Le droit de vote des femmes, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur le temps que ça prend de l'acquérir entre les différents pays? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène, par exemple, qui va vite ou qui est lent?
Bah, c'est lent parce que 2006, c'est quand même plus récent que 1902, où l'Australie a donné le droit de vote.
D'accord. Et tiens, qu'est-ce que vous pensez de la place de la France là-dedans, puisque c'est le pays où nous vivons, donc un pays que vous connaissez? Est-ce que vous pensez que la France, elle a donné le droit de vote aux femmes tôt ou tard?
Bah, c'est ni trop tôt ni trop tard, parce que même s'ils l'ont fait un peu tard, donc assez récemment, on va dire, bah, c'est bien. Enfin, c'est pas trop tard.
Bah, moi, je trouve que c'est trop tard.
Qu'est-ce qui vous fait penser qu'en France, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que les femmes aient le droit de vote plutôt à la même époque que l'Australie, par exemple?
Ou que sachant que les hommes ont le droit de vote en 1848 en France. Et pourquoi ça arrive un siècle plus tard pour les femmes? Il y a eu un siècle d'écart, donc oui, c'est tard par rapport au droit de vote accordé aux hommes.
Pourquoi on aurait pu s'attendre à ce que les Françaises aient le droit de vote plutôt vers 1902, comme les Australiennes, par exemple? Non? Alors, quel est le type de régime politique en France? Est-ce qu'en France, par exemple, est-ce qu'on est dans une dictature, une démocratie?
Une démocratie?
Une démocratie. Et dans une démocratie, en général, de quoi bénéficient les citoyens? Ils ont notamment, effectivement, le droit de vote. Et donc, la France faisant partie des démocraties déjà assez anciennes dans le monde, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer qu'elle ait donné le droit de vote à tous ses citoyens et ses citoyennes en même temps. Or, effectivement, il y a 100 ans d'écart entre les hommes et les femmes. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui pose question. Alors, à quoi, d'après vous, ça peut être dû? Pourquoi on a mis aussi longtemps à donner l'égalité aux femmes? Non, ça vous paraît normal, peut-être, la situation? Non? Donc, est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui aurait pu motiver à laisser les femmes de côté si longtemps? Alors, peut-être que ça, on pourra le retrouver pendant qu'on fera le cours, mais ça va être une vraie question, justement. Pourquoi cette inégalité entre les hommes et les femmes? Tiens, je crois qu'il y avait une proposition.
Je sais pas. Pour s'occuper des enfants.
D'accord. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce que c'est forcément le rôle des femmes de s'occuper des enfants et de ne pas s'occuper de la vie politique?
Non.
Non. Alors, pourquoi, effectivement, cet argument que tu donnes a pu justifier à l'époque que les femmes n'aient pas le droit de vote?
Parce que avant, c'était plutôt comme ça, non?
D'accord, c'est vrai que les gens pensaient comme ça avant, tu vois.
Bah, pour les hommes, c'était plutôt normal que les femmes elles restent à la maison et qu'eux, ils s'occupent du travail.
Donc effectivement, à l'époque, dans la tête des gens, il y a des choses qui sont normales. Est-ce que vous savez comment on appelle ça quand on se pose pas la question? Quelque chose dont on a l'impression qu'elle a toujours existé nous paraît normal. Est-ce que vous connaissez peut-être un mot? Est-ce que le mot préjugé vous dit quelque chose? Ben voilà, là, ce que vous venez d'expliquer, eh bien, c'est une forme de préjugé. Autrefois, on ne se posait pas la question, ça paraissait normal, effectivement, de considérer qu'il y ait un rôle particulier pour les femmes et un autre pour les hommes. Alors, si vous le voulez bien, on peut passer au deuxième panneau. Donc, dans le deuxième panneau, on vous posait une question intéressante. On vous demandait, d'après vous, combien de chromosomes partageait les femmes et les hommes. Donc j'ai rappelé à un certain groupe, les chromosomes, en gros, c'est notre mode d'emploi. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres uniques, que nous avons eh bien, toutes les caractéristiques physiques qui nous composent. Donc, d'après vous, sur les 23 paires de chromosomes, combien partageons-nous, que nous soyons un homme ou une femme? Alors, oui?
13.
Toi, tu penses 13. Est-ce qu'il y avait d'autres réponses?
18.
Et il y avait une troisième proposition à 22. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont proposé 22 paires de chromosomes en commun? Non. Donc,
si on réfléchit, qu'on a tous 23 paires de chromosomes, ma question, elle va être, quelle est la différence principale qu'il existe entre les filles et les garçons, ou les hommes et les femmes? Là ou les?
Qu'est-ce qui différencie les hommes et les femmes dans la nature, si vous voulez, puisque les chromosomes, c'est quelque chose de naturel. Donc, donnez-nous des éléments.
Les hommes, ils n'ont pas de poitrine.
Si vous voulez, moi, je vais vous poser une question qui a été posée dans une autre classe ce matin et qui était intéressante. À la naissance des petits bébés qui viennent de naître, qu'est-ce qui les différencie, qu'ils soient une fille ou un garçon? Parce que là, vous avez évoqué des différences, effectivement. Vous avez parlé de la poitrine pour des hommes et des femmes. Mais il me semble qu'à la naissance, c'est difficile de distinguer une fille et un garçon avec ça.
C'est leur sexe.
Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, souvent, un bébé qui vient naître, d'ailleurs, on est souvent obligé de poser la question de savoir si c'est un garçon ou une fille.
Sauf que qu'est-ce qui se passe à la puberté? C'est qu'il y a les hormones de cette paire de chromosomes qui s'activent et qui montrent les différences de corps entre filles et garçons. Par contre, on a toujours le même nombre de chromosomes et ça ne change pas.
Et donc, si on en revient là à ce qu'on vient de dire, alors d'après vous, est-ce que vous maintenez vos réponses qui disaient qu'il n'y avait que 13 ou 18 paires de chromosomes en commun avec ce qu'on a dit là? Loris?
Là, il y en a 22.
Voilà, il y en a 22, il n'y a qu'une seule des paires. Et encore, c'est un chromosome d'une paire qui est différent entre les filles et les garçons. Vous verrez en SVT que quand on est une fille, on est avec deux chromosomes X. Et quand on est un garçon, on a un chromosome X et un chromosome Y. Et c'est un seul chromosome sur les 46 qu'on possède qui va créer ces différences physiques, en particulier à partir de l'adolescence. Mais en dehors de ça, tout le reste est identique, que l'on soit un garçon ou une fille. Donc la différence naturelle, on va dire, elle n'est pas si énorme, puisqu'on partage 45 chromosomes sur les 46. On aborde la dernière partie du panneau numéro 2. Là, on revenait sur quelque chose qu'on a abordé en géographie déjà. On vous parlait de lois, notamment de lois concernant la contraception. Et on vous demandait, sur les lois concernant les femmes, lesquelles avaient déjà été adoptées avant les années 1980. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi?
Nous, on a mis la loi... Neuwirth, qui autorise la contraception orale de pilule.
D'accord. Il y avait plusieurs choix possibles. Est-ce que vous avez proposé une autre loi avant les années 80?
Moi, j'ai mis la loi Veil, qui autorise l'interruption volontaire des grossesses.
Oui, elles servent effectivement à...
À ne pas faire d'enfant.
Oui, elles servent effectivement à pouvoir choisir de ne pas faire d'enfant. Donc, justement, c'est ce qu'on appelle la contraception. Et tiens, il y avait une dernière proposition. On vous proposait la loi sur les violences faites spécifiquement aux femmes. Et ça, effectivement, ça ne faisait pas partie des réponses pour avant les années 80. Et d'ailleurs, on en est où de cette question aujourd'hui? Est-ce que la lutte contre les violences faites aux femmes, est-ce que c'est un problème qui est réglé à notre époque?
Non.
Non? Par exemple, aujourd'hui?
Parce qu'il y a des viols, des agressions sexuelles, plusieurs choses comme ça.
Et effectivement, il y a des viols, des agressions sexuelles. Et aujourd'hui, ça, on va en reparler la semaine prochaine. Mais c'est des phénomènes. Est-ce qu'on en parlait dans les années 1980? Est-ce qu'on en parlait beaucoup, d'après vous? Non. Et pourquoi?
C'est normal, je sais pas.
Ah bah tiens, on revient un peu dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Encore une fois, tiens, pourquoi pour certaines personnes ça paraissait normal? Bah voilà, toujours cette histoire de préjugés, l'impression que c'était normal qu'il y ait cette inégalité entre les hommes et les femmes. Et à l'époque aussi, eh bien, les femmes souvent avaient honte de dénoncer les violences dont elles étaient victimes. Donc c'est des sujets dont on ne parlait pas, effectivement, parce que pour beaucoup de gens, eh bien, c'était finalement, voilà, ça avait toujours existé, c'était normal. Ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Donc c'est à notre époque qu'on en parle et qu'on est en train de lutter contre ce phénomène.
La loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, il y en a une qui a été adoptée en 2020, il y a 4 ans, pour protéger les victimes de violences conjugales, où la plupart des viols ou violences se font par un conjoint, donc la personne qui vit avec une femme, ou un ex-conjoint. Donc la plupart du temps, c'est quand même dans une personne connue.
Alors il ne reste pas beaucoup de temps là, pour cette première séance. Est-ce qu'on aborde quand même un petit peu le panneau numéro 3? Lui, normalement, ça doit aller assez vite. Alors aujourd'hui, justement, il y a des organismes pour réguler notamment l'égalité homme-femme. En particulier, on vous demandait dans les médias, comment s'appelle cet organisme qui vérifie que l'égalité est respectée dans les médias? Oui.
L'ARCOM.
D'accord. Et d'après vous, pourquoi est-ce que c'est utile de s'assurer que les hommes et les femmes sont à égalité, par exemple, à la télé ou à la radio? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un organisme qui vérifie ça? Qui vérifie qu'il n'y a pas tout le temps que des hommes dans les médias ou qu'on ne raconte pas n'importe quoi sur les droits des femmes, par exemple?
Pour que personne ne soit rabaissé.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas de jaloux.
Ok. Et les médias, ils ont quel rôle, quelle importance dans notre vie, dans notre société?
Ils diffusent des choses, des infos.
Des choses, d'accord. Et donc, nous qui écoutons ou qui regardons des médias, si on entend par exemple des discours qui discriminent les femmes, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur nous? Imaginons, on laisserait par exemple à la radio, à la télé, dire n'importe quoi sur les femmes. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur nous?
Bah, ça pourrait avoir un impact sur les personnes parce que du coup, eux, ils y croient, alors que bah, finalement, ils font tourner, ils font tourner la rumeur et ça finit par dire que bah, c'est pas vrai. Et du coup, plein de gens ont dit que c'était comme ça et du coup, bah, c'est pas forcément utile. Faut avoir des sources vraies, enfin des sources sûres, avant de dire aux autres.
D'accord, donc effectivement, oui, ça permet de se forger une opinion. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on reprendra ça en EMC la semaine prochaine.
Comme vous venez de l'entendre, cette Expo Quiz suscite des débats, des réflexions et des interrogations. Elle permet une discussion et des échanges avec différentes opinions. C'est un bon moyen de lever les stéréotypes et les préjugés sur l'égalité filles-garçons.